C'est indispensable de comprendre que l'histoire donne un rythme au futur.
La sécurité sociale.
Le stand de la sécurité sociale se trouve à l'entrée du hall 42, qui abrite en même temps les stands des territoires de la France d'outre-mer, ainsi que ceux des différents marchands de musique ou de postes récepteurs de radio. Mais revenons à notre sujet. Qu'est-ce que la sécurité sociale ? Eh bien, c'est un ensemble de dispositions législatives, c'est-à-dire légales, qui garantissent les travailleurs contre les risques de maladie, d'accident, d'invalidité, de vieillesse ou même de décès.
Il y a des moments, on était à la foire de Paris, naguère, où la sécurité sociale, 70 ans, paraît vieillie. Il est vrai qu'elle a été créée au temps de Monsieur Gagnepain et de Madame au foyer. Et depuis, la vie familiale a bien changé, le chômage est revenu dans la vie professionnelle et aujourd'hui, les destinataires du système se transformeraient volontiers en protestataires. Les mutuelles laissées sur le bord de la route en 1945 sont d'ailleurs revenues en force pour assurer des prestations complémentaires et surtout, les assureurs privés se tiennent en embuscade. Et si la sécurité sociale était seulement ancienne et qu'il fallait la transformer sans la casser depuis que son financement est devenu plus difficile, c'est ce que répètent inlassablement les gouvernements successifs. La sécurité sociale est en réforme permanente, avec des prescriptions qui sont un peu toujours les mêmes. L'augmentation des cotisations d'un côté, et de plus en plus de l'autre, la contraction des dépenses de santé. Mais la logique française a empêché jusqu'ici d'aller plus loin. La sécurité sociale et plus largement les instruments de protection sociale, comme l'assurance chômage, en modérant les conséquences de la crise, entretiennent la demande et sont donc des instruments de politique économique. L'État protecteur, grâce à eux, est en même temps un État régulateur. C'est bien ce que lui reprochent les plus libéraux avec la sécurité sociale. L'État commettrait le péché d'intrusion.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Gérard Vint, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Notre compagnon de route d'Alternative économique, vous publiez un article sur les origines de la sécurité sociale dans le numéro d'octobre de la revue. Alors, vous expliquez que l'invention de la sécurité sociale est internationale. Il y a quand même de vieilles sources républicaines. Je sais que vous êtes un peu socialiste à Alternative économique, mais il y avait les solidaristes, vous vous souvenez, avant la guerre de 1914, monsieur Léon Bourgeois qui disait « Il faut que tous prennent soin de chacun, la précaution de tous envers chacun ». C'était pas du socialisme.
Absolument, il y a des sources révolutionnaires aussi qui datent du début de la Révolution française. Mais c'est vrai qu'au début du XXe siècle, il y a une prise de conscience autour de la question sociale et de l'exclusion de la classe ouvrière de la société, de la nécessité d'une solidarité sociale face surtout, je dirais, à la pauvreté à l'époque, davantage que par rapport à la maladie. On va tarder en France réellement à légiférer sur ce sujet.
Mais quand la Troisième République, un peu avant 14, commence à s'occuper de lois sociales, elle a, vous parlez de la République qui tarde, elle a en effet 15 ans de retard sur l'Allemagne de Bismarck.
Absolument, sur le grand rival. Bismarck met en place dans les années 1880 un système d'assurance maladie et d'assurance vieillesse, sous la pression aussi des socialistes, pour leur couper l'herbe sous le pied, tout en les réprimant. Mais il s'agit d'un système qui va faire date et qui va influer la sécurité sociale française aussi plus tard.
Donc c'est le système bismarckien, il porte ce nom dans notre mémoire.
Ce système, c'est vraiment un système fondé sur la profession. Ce sont des salariés d'une profession qui cotisent. C'est eux qui vont être bénéficiaires des prestations et c'est eux finalement qui vont gérer avec donc patronat et syndicat de salariés.
Donc c'est des revenus professionnels. Voilà, la cotisation.
Complètement, la cotisation et je dirais la gestion aussi. Oui.
Et c'est pas redistributif.
Ce n'est pas un système redistributif, même à l'origine, on a même des prestations qui sont proportionnelles aux cotisations. Donc, au revenu.
Quand la République récupère l'Alsace-Moselle, il y a ce système bismarckien qui fonctionne et qui n'est pas sans gêner. La Troisième République.
Ça va aider à la mise en place quand même d'une législation de protection sociale. Alors auparavant, je cite très rapidement, il y a eu quand même la loi de 1898 concernant les accidents du travail, qui est la première loi assurantielle, un grand tournant quand même. Il y a eu une loi sur les retraites ouvrières et paysannes, bon, qui était très discutée, pas d'obligation, des pensions extrêmement modestes, etc. Mais c'est effectivement dans les années 1928 1932, hein, qu'il y a la mise en place d'assurances sociales obligatoires et d'allocations familiales. Si vous voulez, jusqu'à présent, c'était surtout l'œuvre du paternalisme patronal. Et là, il va y avoir vraiment une législation là-dessus, sur ce sujet, avec des caisses dédiées, etc.
Les jalons sont posés donc depuis longtemps. Quand la sécurité sociale va devenir une institution administrative, le grand homme qui l'a porté, issu de la Résistance, conseiller d'État, il faut citer son nom, c'est Pierre Larocque qui, ici, évoque ses souvenirs 50 ans plus tard.
Dans la période que nous vivions à ce moment-là, il y avait un courant d'idées qui emportait tout. Un esprit de solidarité, né de la guerre et de ses suites, et qui soulevait l'ensemble de l'opinion. Et j'ai eu la chance aussi que le syndicalisme salarié était extrêmement puissant et se résumait essentiellement dans la CGT, et qui groupait à ce moment-là 5 millions d'adhérents. Il y avait bien à côté des syndicats chrétiens, qui d'ailleurs au début ont été réticents. Non pas contre l'institution, mais contre le fait qu'on n'en faisait pas une place suffisante dans le système. Mais tout ça a été absorbé par l'élan collectif de la population ouvrière, de la masse de la population.
Alors, il parle d'un mouvement d'ensemble. Pierre Larocque, il y a eu quand même quelques réticences. Les mutuelles, que je citais, qui étaient restées sur le bord de la route et qui existaient avant. Je ne suis pas sûr que les médecins libéraux aient été enthousiastes.
Ou les médecins libéraux étaient très soupçonneux par rapport à ce qui se mettait en place, mais finalement, ils ont obtenu un système qui, au bout du compte, leur convient.
Alors, vous avez une belle formule dans votre article d'Alternative économique. Vous dites que se sont combinées la puissance revendicatrice de la classe ouvrière et la volonté intégratrice de la droite sociale. Oui, mais on fait, là encore, comme si la France était seule au monde. En 1942, était paru, pendant la guerre, en Angleterre, un papier, comme on dit. Un papier, ça a souvent beaucoup d'influence quand c'est écrit par une personnalité conséquente. Le papier Beveridge.
Oui, Beveridge, donc, était un libéral anglais qui a travaillé dès avant la guerre sur ce sujet et donc qui écrit un livre blanc, hein, sur la nécessité de mettre en place une sécurité sociale avec un système qui est beaucoup plus redistributif, hein, que le système bismarckien. Avec les bénéficiaires sont les citoyens. C'est l'impôt qui finance et c'est l'État qui gère. Ce qui va être effectivement mis en place en Grande-Bretagne après la Seconde Guerre mondiale, hein, ce qui peut nous apparaître avec le recul du temps comme un paradoxe, puisque dans ce pays qui pour nous a une étiquette libérale, on a la mise en place d'un système extrêmement redistributif qui va d'ailleurs aussi, qui ressemble à ce qu'on retrouve dans des pays scandinaves aussi.
Hein. Donc Bismarck, revenu professionnel, pas d'aspect redistributif, Beveridge, universalité, et aspect redistributif. La sécurité sociale à la française va combiner les deux, c'est une sorte d'hybride.
Oui, on peut dire ça. Hein, il y a une hybridation. Il y a quand même, de par le fait que c'est avant tout fondé sur des cotisations liées au salaire, hein, puis ensuite aux revenus, et sur le fait que les bénéficiaires sont ceux qui cotisent, il y a une forte marque bismarckienne.
Oui, mais en même temps, dans le système famille, allocation familiale, avant que François Hollande n'ébrèche l'universalité, il y avait l'universalité des allocations familiales versées à tous, quels que soient les revenus.
Absolument. Et je dirais en plus que dès l'origine, dès les ordonnances, hein, du 4 octobre et du 19 octobre, dès la loi que propose Ambroise Croizat, on en parlera sans doute, hein, on a une volonté, en tout cas la ligne, hein, qui est indiquée, la direction qui est indiquée, c'est allons vers l'universalité.
Alors, vous parlez d'Ambroise Croizat, vous faites bien, parce que il y a toujours un auditeur communiste qui, chaque fois qu'on parle ici de la sécurité sociale, dit, vous citez sans arrêt Larocque, mais pas le ministre du Travail, le deuxième ministre du Travail d'après la Libération, ministre du Travail et des Affaires Sociales, qui est un communiste, qui s'appelle Ambroise Croizat, qui est un syndicaliste.
Oui, oui, c'est, disons, à l'origine, c'est un syndicaliste, un métallurgiste, hein, qui a travaillé dès l'âge de 13 ans, comme beaucoup de militants communistes de l'époque. Il a été député en 36, hein, et puis, par la suite, donc, il va être un cadre important du Parti communiste et va se retrouver. Et c'est un spécialiste des affaires sociales.
Le voici au début de 46.
La loi nouvelle détermine l'extension des assurances sociales à toutes les catégories de Français qui jusqu'ici n'en bénéficiaient pas. Artisans, commerçants, exploitants agricoles, aux veuves ou conjoints, ainsi que les mères de famille, d'une manière générale, tous ceux qui exercent une activité professionnelle non salariée ou même qui, pour une raison quelconque, n'en exerce aucune. La généralisation des assurances sociales permet la généralisation de l'allocation jusqu'ici réservée aux vieux travailleurs salariés. En attendant le moment où les bénéficiaires nouveaux des assurances sociales justifieront la durée des cotisations exigées pour l'assurance vieillesse, l'allocation aux vieux sera l'expression éclatante de la solidarité de toute la population française à l'égard des vieux. Le public, toutefois, ne doit pas ignorer les difficultés considérables que l'application d'une réforme aussi importante soulèvera, tant au point de vue administratif qu'au point de vue de son financement.
Il est prudent, enfin pas prudent dans l'usage des mots, on dirait plus les vieux aujourd'hui. Encore moins les économiquement faibles, expression d'époque.
Non, mais il souligne un vrai problème qui sera d'ailleurs, qui marquera la pauvreté pendant toutes les Trente Glorieuses. Pendant les Trente Glorieuses, il y a plus de pauvres qu'aujourd'hui. Ce sont des vieux, des gens qui n'ont pas auparavant cotisé suffisamment de temps pour avoir une retraite convenable.
La généralisation, elle va se faire. Vous avez une formule, vous, tache d'huile. Enfin, moi, je dirais plutôt sédimentation.
Oui, en fait...
couche par couche, quoi.
Oui, couche par couche. En fait, c'est quand même fondé sur des, je dirais, sur des compromis. Au départ, il y a une volonté à la fois de Larocque et de Croizat de faire une sécurité sociale universelle, un petit peu la même pour tous. Et puis, il y a des résistances. Il y a déjà l'existence de régimes spéciaux. Hein, les mineurs, les marins, les fonctionnaires, etc. Et puis, il y a aussi les indépendants. Les travailleurs indépendants qui n'ont pas envie d'être classés dans le régime général comme de vulgaires salariés. Il y a encore ça hein, qui existe. Et donc, ça va être progressif. La progressivité, elle concerne à la fois le montant des prestations. Hein, on va y avoir l'instauration de complémentaires. Déjà les cadres hein, qui deviennent une catégorie sociale nouvelle en 47, hein, qui mettent sur pied un système de retraite complémentaire. Et là, on retrouve la place des mutuelles. Je vous avais pas répondu sur les mutuelles, mais les mutuelles, on leur fait une place et elles vont finalement.
On leur fait confiance, elles reviennent par la porte.
Voilà. Chassées par la voilà. Fenêtre, et donc elles vont se charger de tout ce qui est complémentaire jusqu'à aujourd'hui avec la complémentaire maladie collective pour les entreprises obligatoire au 1er janvier 2016.
Vous seriez capable de faire le nombre, de faire le total des régimes?
Je crois qu'il y en a 19.
Parce qu'il y a encore les ministres aujourd'hui. Du culte en 78, et puis alors il y a, je ne savais pas moi, Opéra de Paris, Comédie Française aussi, qui ont
oui, alors
un
là,
régime spécial.
Oui, il y a des régimes comme ça extrêmement nombreux.
Et ça devient très très compliqué à expliquer à mesure que les années passent, ouais. D'autant que, on a parlé des régimes, il faudrait parler des branches. C'est quoi une branche?
Oui, bien, il y a la branche maladie, la branche vieillesse, la branche famille. C'est les trois grandes caisses, en fait, qui vont être séparées seulement, je dirais, du point de vue financier et gestion, seulement à partir de 67, pour qu'on sache bien qui est déficitaire et qui ne l'est pas.
Et puis, il faudrait parler de l'assurance chômage, qui ne fait pas partie de la sécurité sociale, mais qui fait partie du système de protection sociale que souvent les Français confondent avec la sécurité sociale. Ici, on va avoir un écho de la sécurité sociale vraiment au sens, si vous voulez bien, le plus restreint du mot. Vous voyez, la feuille de maladie.
Moi, je comprends rien du tout à la sécu. Leurs papiers sont jusque là. Alors, 253-07-06-061-280. Eh ben voilà, et ben ça c'est tout la sécu, ça. Ils vous donnent un numéro, ça rentre même pas dans les cases. Regardez.
Ah oui, mais là c'est pour la date de naissance.
Ah non, la date de naissance, j'ai déjà mis là.
Oui, mais là, c'est pour votre nom. Vous voyez, vous avez une ligne de retard sur tout. Refaites-le.
Oh, bah tiens, je vais leur foutre une flèche.
Ne riez pas, ça passe par ordinateur. Mais qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases, ça déborde. Exercez-vous une activité professionnelle. Ça dépend. Ça, évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non. Alors, ça dépend, ça dépasse.
Mais évidemment, ça dépasse. C'est ce que je vous dis depuis une heure. Oh, je suis pas plus bête qu'une autre, quand même.
Qu'est-ce que c'est que ça, Zizette épouse X?
Zizette épouse X.
Pardon,
Vous savez pas lire? Là, il y a écrit en tout petit, pour les femmes mariées ou veuves, mettre le nom de la jeune fille, suivi de deux points, épouse X ou veuve Y. Moi, j'ai mis Zizette épouse X.
Et Zizette, c'est qui?
Ben, Zizette, c'est moi. C'est comme ça qu'on m'appelait quand j'étais fille, c'est mon nom de jeune fille.
Et X, vous êtes mariée à X?
Non, j'ai pas de mari, seulement je préfère pas leur dire, je suis enceinte jusqu'au dents, alors ça fait mauvais sens.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Nous sommes en 1982 avec la pièce de Josiane Balasko, Marianne Chazelle et Christian Clavier. C'est le début du développement de la critique contre la sécurité sociale, Gérard Wint. Vous parlez pas de ça dans votre article Alternative économique, qui est surtout consacré aux origines de l'institution, mais si vous le voulez bien, on va la suivre au long des années. Bureaucratie, sigle, acronyme. Alors il paraît que la carte vitale, et puis maintenant la sécurité sociale 2.0, simplifie les choses, mais...
Oui, c'est tout à fait frappant en ce qui concerne, vous parliez des sigles, c'est vrai qu'on a du mal à s'y retrouver hein, avec les sigles de caisse, etc. J'entendais le discours de Marisol Touraine d'hier soir à la Mutualité, elle parlait de l'ONDAM, pour elle ça faisait partie manifestement du langage courant, c'est, je le dis pour les auditeurs, c'est l'objectif national d'évolution des dépenses maladies. L'URSSAF, etc. Bon, alors il y a des sigles qui nous sont familiers, hein, dont on ne connaît pas forcément la signification, mais bon, ça, je dirais, c'est presque un détail. Mais on comprend aussi hein, la difficulté que peuvent avoir les gens pour remplir tout cela. Alors, ça parlait, ce genre de sketch parlait beaucoup aux gens, justement parce que la sécurité sociale fait partie de leur vie quotidienne. Hein. Non seulement parce qu'ils ont un numéro qu'on leur demande tout le temps et qu'ils finissent par connaître par cœur malgré les 13 chiffres, mais aussi parce que elle est là et elle est populaire. Encore aujourd'hui.
C'est-à-dire que quand vous êtes arrêté dans la rue par quelqu'un qui cherche son chemin, une fois sur deux, il cherche le bureau de la sécurité sociale, si vous avez remarqué.
Oui, et puis ça correspond à une très forte réalité hein, en ce qui concerne le rôle des prestations diverses dans le revenu.
Alors je reviens quand même au mouvement critique qui peu à peu se dessine, critique contre le fait que le système n'est pas égalitaire. Un parlementaire est mieux couvert qu'un agriculteur ou qu'un salarié agricole. Le système est bureaucratique et puis le système est déficitaire. Alors ça, on s'en aperçoit dès la fin des années 60. C'est pour ça que Jean-Marcel Jeannet, en 1967, prend des ordonnances dans un parlement où la majorité est très faible pour le général de Gaulle et qui cherche à...
Alors ces ordonnances, je dirais surtout, elles ont pour effet de séparer les caisses dont on parlait tout à l'heure, maladie, retraite, famille, pour bien clarifier la gestion et bien préciser les responsabilités des uns et des autres. Et d'autre part, les gestionnaires qui jusqu'alors étaient pour deux tiers des représentants des syndicats de salariés, enfin des salariés via leurs syndicats, ça va changer ce système et il va y avoir une parité avec des représentants syndicaux, salariés et employeurs, non pas élus comme naguère, hein, mais désignés par leur syndicat. C'est une certaine, finalement, bureaucratisation, mais en même temps, c'est pour responsabiliser les partenaires sociaux.
Et puis bien identifier les déficits. Eh bien, je suis au regret de vous dire que ça ne suffit pas. Voici, au début des années 80, une solution qui a été proposée par un mauvais plaisant. Nous sommes précisément en 1984.
Périgueux a son corbeau. Il s'amuse à envoyer des lettres aux personnes âgées, des lettres à En tête de la sécurité sociale, signées par le président d'une bizarre commission s'intitulant « Résorption du déficit de la sécurité sociale », les invitant à se présenter au crématoire municipal de la ville pour y être incinérés.
C'est marqué « Votre vie n'offre plus aucun avantage pour la société, mais au contraire apporte une charge supplémentaire à la caisse d'assurance maladie pour votre ville » et des désagréments pour votre entourage.
Et on vous demandait de...
De me rendre au feu numéro 2, clapet 34, pour procéder à mon incinération. prière de vous munir de votre carte d'immatriculation et d'affiliation, de votre carte d'identité nationale, d'une corbeille de bois de sapin et d'un sac pour les cendres. Vous croyez que c'est réjouissant quand vous recevez des lettres pareilles ?
Interactualité 1984, ça pourrait être un sketch de Francis Blanche. Non, c'est un reportage, un vrai corbeau dans cette ville de Dordogne. Alors comment imagine-t-on, plus sérieusement, de réduire le déficit ? C'est toujours un peu les mêmes recettes, non ?
C'est toujours un petit peu les mêmes recettes. Ça intervient, vous m'avez dit 84, je crois, oui. Alors que la retraite vient de passer à 60 ans. C'est-à-dire l'âge légal à partir duquel on peut prendre sa retraite. Et puis, ça correspond aussi à des durées de cotisation, qui ne sont pas les mêmes, d'ailleurs, pour le privé et le public. Donc, en fait, les recettes vont être l'augmentation des cotisations, soit employeurs et salariés, va être l'allongement de la durée de cotisation pour avoir une retraite à taux plein, éventuellement la diminution des pensions, en général insidieuse plutôt que brute, je dirais. Hein. Donc c'est sur ces facteurs-là que l'on joue, bien sûr.
Cependant, un Premier ministre, en 90-91, a une idée, la CSG. Il dit, souvenez-vous du modèle bismarckien, financement uniquement sur les revenus professionnels. Il dit, si on prenait un peu du modèle Beveridge, financement général sur tous les revenus. C'est ça la contribution sociale généralisée de 90-91.
Absolument. Hein, cette décision qui est prise, que fait voter le gouvernement de Michel Rocard, transforme profondément, finalement, hein, la nature de la sécurité sociale, puisque la CSG recouvre aujourd'hui à peu près 13% des dépenses de l'ensemble de la protection sociale, et plus précisément 18% de la sécurité sociale proprement dite. Donc ça, c'est tout à fait important. Alors c'est un impôt, d'une certaine façon, hein, c'est un impôt, en droit social français, c'est un impôt. Mais en même temps, c'est un impôt particulier, parce qu'il est strictement affecté au financement des prestations sociales. Il ne rentre pas dans le budget de l'État, il va directement à l'URSSAF qui collecte les fonds. Je signale, ceci dit, qu'il y a encore quelques autres ressources fiscales plus anciennes.
Alcool, tabac.
Voilà.
Bien sûr. Oui. Oui, mais enfin, vous dites c'est fondamentalement nouveau, et après vous ajoutez ça correspond à moins de 20% du financement de la sécurité sociale. Ça veut dire qu'on est toujours dans l'hybridation, voire dans la contradiction.
Absolument. Alors, contradiction, disons que oui, je dirais que dans le compromis, on dirait, hein, mais quand même, ça a transformé les choses. Ça permet d'alléger, en fait, le but, c'était d'alléger les charges sociales, ce que le patronat appelle des charges. Hein, je dirais que ce que j'appellerais plutôt des cotisations sociales sur les bas salaires, hein, et ça va être compensé donc par cet impôt.
Enfin, il pourrait dire spoliation. Le patronat, François Hollande, a dit hier que la cotisation n'était pas la spoliation. Alors l'étape suivante, maintenant qu'il faut évoquer, on va à grands traits, hein, c'est 1995. Quand il y a une campagne présidentielle qui est définie, ça permet la théâtralisation des réformes. Et à ce moment-là, le Premier ministre, c'était Alain Juppé. Il est beaucoup moins populaire qu'aujourd'hui, déclencher le mouvement le plus massif de manifestations en France depuis 1968. Il est vrai que la réforme de la sécurité sociale qu'il a prévue, il l'a présentée en même temps qu'une restructuration de la SNCF.
La sécu, c'est social. La sécu, c'est pas libéral.
Non à la commercialisation du corps humain. Non au bonus-malus pour la santé. Oui, au couple solidaire, sécurité sociale, mutualité. Une sécurité sociale solidaire, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'économie du pays et c'est bon pour le moral.
Enfin, Alain Juppé est quand même en partie parvenu à ses fins puisqu'il a réussi à imposer le principe d'une loi annuelle de financement de la sécurité sociale qu'à chaque rentrée discutera dorénavant le Parlement, et ceci n'a été possible qu'après une révision de la Constitution votée en Congrès à Versailles début 1946.
Versailles sous la neige, il y a plus d'un parlementaire que cela aurait pu refroidir, mais un parlementaire a le sens du devoir.
Nous allons voter contre avec de bonnes raisons. Si je faisais une réforme de la Constitution pour améliorer la sécurité sociale, ça se saurait.
Nous allons appeler plus que jamais les travailleurs à lutter effectivement et efficacement pour la défense de la sécurité sociale.
Vous avez reconnu Rocard et Marchais qui n'ont pas vieilli. On accuse souvent l'âge d'Alain Juppé. Non, et c'est pas des réformes de 45-46 dont on parle, mais de 95-96. C'est quoi cette loi de financement? Marisol Touraine vient de la proposer là au Parlement.
Oui,
de nouveau.
Oui, il y a tous les ans, il y a une loi, effectivement, de financement, LFSS, hein, loi de financement de la sécurité sociale, qui débouche sur un ONDAM dont je parlais tout à l'heure, hein, l'objectif national d'évolution des dépenses maladie, disant que la représentation nationale, qui est le Parlement, vote, je dirais, un budget, en quelque sorte, on pourrait dire, une direction, un budget indicatif. Il n'y a pas une contrainte des caisses de sécurité sociale de rester dans ces clous, puisqu'ils peuvent pas forcément prévoir toutes les dépenses. Ils peuvent mieux prévoir les recettes, quoique, hein, c'est lié quand même
enfin,
à l'emploi.
Enfin, l'État pilote davantage.
L'État, voilà. L'État pilote davantage, et c'est une certaine menace. Lorsqu'on lit, par exemple, le quotidien du médecin, ça m'arrive de le lire, ils sont très attentifs à ça. Hein. Par exemple, le dernier ONDAM, je cite, « risque de compliquer les prochaines négociations tarifaires avec les médecins libéraux.
Oui. » Hein, voilà. Mais enfin, Marisol Touraine est optimiste cette année, la trajectoire du trou est la bonne, et il finira par rentrer dans les buts de l'équilibre. Voilà, ça c'est un langage qui est un peu différent de celui que vous utilisez. Dites-moi, vos élèves, ils sont passionnés, vous étiez professeur de classe préparatoire, par toutes ces questions de sécurité sociale, comment ils regardent la sécurité sociale ?
En fait, les jeunes étudiants, d'abord, ils sont affiliés, hein, à la sécurité sociale, et donc ils connaissent, hein, ils ont une carte vitale, et donc ils s'en servent comme vous et moi. En même temps, il y a une très forte conscience une très forte incertitude sur leur avenir, notamment pour les retraites. Et ce qui me semble remarquable, c'est quand je vois des gens qui ont 30 ans. Un petit peu plus tard, ils ont tendance à se dire « Ouh, ma retraite, il faut que je la prépare, je vais essayer d'accumuler de l'argent sous forme de biens, souvent immobiliers, pour préparer ma retraite. » Alors ça, c'est un trait quand même social qui me semble inquiétant. Dans la mesure où la sécurité sociale, c'était le travail qui apporte une sécurité. Alors qu'auparavant, c'était le bien, la fortune qui a apporté une sécurité. Et là, donc, la sécurité était à la portée de tous.
Et là, le patrimoine compte pour davantage. Les assureurs privés guettent l'accès aux données personnelles de vos étudiants. Alors, vous recommandez le quotidien du médecin. Moi, je recommande Alternatives économiques. Votre article et les autres dans le numéro du mois d'octobre. L'émission était préparée par Ilinka Negulesco. Elle était réalisée par Jacques Sigal avec à la technique Grégory Vallon. Notre rendez-vous demain. En direct à Blois Auditorium, Abbé Grégoire, qu'est-ce que c'est que la chrétienté, le mot qui revient sans cesse en boucle?